France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Gabrielle Filtoshiba, romancière, poète, maman.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
J'ai filé en douce Saint-Bruno de Kamouraska. Ça n'est pas la porte à côté, mais loin de moi le blues de la métropole et des automates aux comptes en souffrance. Chaque kilomètre qui m'éloigne de Montréal est un pas de plus dans le pèlerinage vers la seule cathédrale qui m'inspire la foi, une profonde forêt qui abrite toutes mes confessions. Cette plantation d'épinettes poussée en orgueil et fière comme des montagnes est un temple du silence où se dresse ma cabane, refuge rêvé depuis les tipis de branches de mon enfance. Kamouraska, je suis tombé sous le charme de ce nom ancestral, désignant là où l'eau rencontre les roseaux, là où le golfe salé rétrécit et se mêle aux eaux douces du fleuve, là où naissent les belugas et paissent les oiseaux migrateurs. Y planait une odeur de marais légère et salée, aussi parce qu'en son cœur même, on y lit amour. J'ai aimé cet endroit dès que j'y ai trempé les orteils, la rivière et la cabane au creux d'une forêt tranquille. Je pouvais posséder toute une forêt pour le prix d'un appartement en ville. Toute cette terre, cette eau, ce bois et une cachette secrète pour une si maigre somme, alors j'ai fait le saut. C'est ici, au bout de ma solitude et d'un rang désert, que ma vie recommence. Je ne suis pas seul sous le toit qui fuit, une souris qui gruge les poutres du plafond s'est taillé un nid tout près de la cheminée. Je l'entends gratouiller frénétiquement jour et nuit. Au fond, pas grand-chose ne nous différencie, elle et moi. Ermite tenant feu et lieu au fond des bois, femelle esselée qui en arrache. Comme elle, je vais finir par manger mes bas. Comme elle, j'ai choisi l'isolation, ou plutôt l'isolement. Bonjour Gabrielle Filtoshiba.
Bonjour.
Ces lignes sont extraites de votre ouvrage Encabané, publié en 2018 au Québec. Et vous êtes de passage en France pour la sortie de votre nouveau roman, roman d'anticipation, Exa, publié chez Stock et dans lequel l'écologie et le féminisme, on verra, sont au cœur de l'histoire. Un jour, sur un coup de tête, vous avez donc quitté Montréal et la vie citadine pour vous installer plusieurs années. Dans les forêts du Kamouraska, vous allez nous raconter cette histoire et aussi les racines de votre engagement. Et tout commence le jour de votre naissance, le 26 novembre 1987, c'est à Montréal. Voici ce qui s'est passé ce jour-là, à la fois dans les actualités françaises et québécoises.
Bonsoir. À Paris, manifestation anniversaire, un an jour pour jour après le début de la fronde des lycéens et des étudiants. Leur cheval de bataille, aujourd'hui, c'était surtout le budget de l'enseignement supérieur. Un budget qui fait dire aux militants que l'université est en péril.
Un jeune suspect de race noire de 19 ans, dont nous taisons l'identité, est amené ici même à la caserne 15 de la police métropolitaine. Une fois rendu au poste de police, le jeune homme de 19 ans tente de fuir. Il s'arrête, mais trop tard. Un coup de feu est parti. Il s'écroule raide mort. Le directeur Roland Bourget affirme que le policier est suspendu sans solde.
Alexandre Dumas, à Montréal.
Cet énorme massif forestier des Pyrénées que l'on croyait jusqu'à ce jour à l'abri des pollutions industrielles semble à son tour bien atteint par le fléau. Depuis 4 ans, le processus de déforestation est en marche. Par ailleurs, c'est une faune et une flore uniques qui risquent de disparaître avec la forêt, sans parler des conséquences de la déforestation sur le tourisme et sur la filière bois.
Gabrielle Filtoshiba, qu'est-ce qui vous inspire ce petit journal du jour de votre naissance, 26 novembre 1987 hein?
C'est fascinant de voir les cycles dans l'histoire, hein, que les choses avancent mais ne changent pas en même temps.
Avec la forêt française.
Oui, les Pyrénées, la violence, ouais. La division sociale.
La forêt française jugée malade en 1987, elle l'est toujours. Et la forêt québécoise, est-ce qu'elle est en meilleure santé ou pas?
Elle brûle et elle brûle encore. On a planté pendant des décennies des résineux en rangée et en fait, ces champs de monoculture-là sont en proie aux flammes aujourd'hui, en Californie, dans le nord du Québec, un peu partout. Donc, on récolte ce qu'on a semé, littéralement.
Avec une déforestation dans votre pays qui est déjà très ancienne, hein, donc les choses n'ont pas changé sur ce front-là?
Non, et je dirais même qu'elles empirent parce qu'on continue, on persiste, on plante encore et toujours des arbres génétiquement modifiés, des résineux, à distance d'un mètre ou deux, hein, très, très densément. Et donc, ça assèche les sols, ça change le pH et ça rend les surfaces propices au feu.
On n'a tiré aucune leçon.
Mais j'espère que oui. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai écrit EXA et que j'ai voulu, en fait, je suis allée espionner les coupes rases.
Ouais.
Parce que j'avais besoin de sous en tant que jeune écrivaine et maman, mais aussi parce que j'avais très envie d'aller découvrir qu'est-ce qui se passait ouais. réellement.
Vous naissez à Montréal, dans un milieu familial qui ressemble à quoi, d'ailleurs, Gabriel Filtoshiba?
Un professeur de langue, une traductrice médicale. On est dans le plateau Mont-Royal, un quartier avant qu'il soit gentrifié. Donc, un quartier plutôt populaire avec une belle vie de quartier. Puis, tous les week-ends, on part à la campagne. J'ai la chance d'aller jouer au bord de l'eau, au bord d'un lac, où est-ce qu'il y a encore des grenouilles, des wawarons.
Des wawarons?
Des wawarons.
Qu'est-ce que c'est
ça? Vous connaissez pas les wawarons?
Non.
Ben, c'est d'énormes grenouilles qui font vraiment un son caractéristique le soir. Là. Oui, c'est et donc, moi, je leur avais donné des noms, puis on faisait...
Est-ce que vous savez les imiter, les wawarons, ou pas?
Ah non, ça, non, j'oserais pas. Mais on faisait des courses de wawarons, même enfant. On tapait ces immenses grenouilles, puis on les relâchait dans l'herbe, puis on criait, puis on espérait tant gagner.
Et donc, c'est ce souvenir que vous avez de vos week-ends?
Oui, de jouer dans l'eau, dans puis derrière forêt. Le chalet, c'était la forêt qui me semblait infinie. Et je m'éloignais toujours plus et je construisais ces tipis de branches dont je parle dans les premières lignes dans Cabané. J'ai toujours construit des cabanes.
Donc, il fallait bien que ça vous arrive de vivre réellement dans l'une d'entre elles, hein, c'est ça?
Oui.
On lit au sujet de vos parents qu'ils sont ou qu'ils étaient souverainistes et indépendantistes. On ne sait pas bien ce que ça veut dire en France.
Ah non?
Non, ça veut dire quoi exactement?
Ben alors, au Québec, on a ce rêve d'un jour devenir un pays hein, qui serait autonome et qui pourrait... en fait, avoir une juridiction sur tout ce qui se passe en matière environnementale. C'est ça, on va dire, la grande tristesse de notre époque. Dans le militantisme, on se rend compte que même si tout le Québec est soudé sur une question d'un passage ou non d'un oléoduc, on n'a pas la juridiction pour s'opposer. Et donc, il y a une impasse à ce niveau-là.
Et la souveraineté du Québec, alors même que les États-Unis menacent de faire du Canada le 51e État, j'imagine que le sujet est plus brûlant que jamais chez vous au Québec.
Oui. Moi, je ris quand je suis stressée. Là.
C'est vrai.
Ça me fait rire, mais en même temps, je trouve que c'est tellement ridicule comme affirmation parce que le Canada, on est la pouponnière, on est le bassin des ressources. Les Américains ont besoin de nous hein, pour le bois, pour
ben oui, mais
potable,
bien que ça leur appartienne.
Ouais. Non, mais on est beaucoup plus fort qu'ils pensent.
C'est vrai?
Oui.
Vous allez vous battre?
Ah, hein? Oh, mais oui, moi, j'aime bien me battre.
Il y a déjà un sentiment de lutte là, qui est en route ou pas chez vous?
Ben là, moi, je fais une lutte plutôt cavalière seule avec mon art. Là, ces temps-ci, dans ma jeune vingtaine, j'étais sur le terrain, en forêt, de toutes les manifestations.
Ouais.
Mais là, je suis devenue maman et donc j'ai dû m'assagir un peu.
Ah bon?
Oui.
C'est vrai?
Ben parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école quand la cloche sonne. Je peux pas être dans un pénitencier fédéral parce que je suis une terroriste intérieure.
C'est le terme qui est employé chez vous?
Ah oui, les écologistes, on est des terroristes intérieurs.
Nous, c'est des éco-terroristes. Hein,
d'accord.
Ici.
Mais c'est plus joli déjà.
Ah bon, vous trouvez?
Oui, ben il y a le mot écho. Hein.
Oui, intérieur, c'est pas mal non plus.
Ouais,
on va échanger nos formulations. En tout cas, ça veut dire malheureusement la même chose.
Hein. Oui, ben des gens qui aiment la nature.
À quoi vous rêviez enfant dans ce contexte à la fois montréalais et puis de grandes forêts et de chalets?
Je rêvais de vivre à la campagne.
Vraiment?
Oui, je rêvais d'avoir un potager, d'apprendre à faire du pain, de faire mes propres remèdes comme des potions magiques, un petit côté sorcière. J'avais vu ma grand-mère comme ça cuisiner, aller cueillir les pommes, faire la croustade aux pommes qui sort du four chauffé au bois dans la cuisine d'été d'une maison ancestrale. Pour
j'ai
moi,
déjà l'odeur. Hein.
C'était magique. Mm. Et pour ma maman, qui était plutôt féministe, pour elle, c'était un recul. Hein. Alors, il fallait investir le marché du travail, il fallait dépasser les hommes, il fallait aller dans les conseils d'administration. On rêvait que je sois ambassadrice ou avocate, pas une ermite encabanée avec des principes écolos un peu trop radicaux.
Ouais. Et vous êtes devenue traductrice avant de vivre dans votre cabane, comme l'était votre mère d'ailleurs,
oui.
Traductrice médicale, c'est ce que
oui,
vous disiez.
Oui, ma mère est traductrice médicale.
Ça veut dire quoi d'ailleurs?
Donc elle travaillait pour le gouvernement canadien, donc tous les documents produits par le gouvernement qui doivent avoir une certaine expertise, un langage médical, elle était habilitée à les traduire, même les documents secrets. Moi je me suis rangée plutôt du côté du langage juridique parce que j'avais commencé des études en droit, puis après je me suis recyclée en traduction juridique en me disant ben une profession plus près des lettres me plairait davantage. Et donc, j'ai maîtrisé cette langue de bois-là avant d'aller vraiment vers la langue de bois
Le vrai bois des forêts. Vous travaillez donc dans une boîte comme traductrice et en 2012, votre vie va basculer. Vous êtes au Québec en plein printemps érable.
Des arrestations par centaines, des amendes astronomiques et des heurts réguliers entre police et manifestants, c'est le quotidien du Québec en plus de 100 jours de confrontation. C'est le printemps d'érable, clin d'œil au printemps arabe, et difficile de dire quand et comment cela va finir. Si la moitié de la population approuve l'augmentation des frais de scolarité, une majorité en revanche réprouve la loi d'exception. Au-delà de ce bras de fer, c'est un système qui est visé.
On se souvient bien de ces images d'ailleurs en France, hein, de 2012, ces manifestations étudiantes pour l'accès justement à l'étude et à l'université. Ça, c'est une période qui a été vraiment très particulière aussi pour vous. Hein. C'était vraiment un moment de transition.
Oui, puis on portait tous des carrés rouges en feutre sur nos sacs d'école, puis on était solidaires, parce que moi j'avais eu la chance, bon, que mes parents payent pour mes études universitaires, puis je sentais une grande injustice pour d'autres Québécois qui, bon, voyaient leurs frais de scolarité augmenter drastiquement. Je trouvais que c'était un non-sens dans une société aussi riche de devoir, en fait, que moi je suis pour la gratuité scolaire, je pense que ça contribue à l'avancement de la pensée.
Comment ça s'est terminé d'ailleurs, cette histoire de frais scolaires là, au Québec?
Le gouvernement a reculé après, je pense, une centaine de journées de grève. Là, je pense que c'était 103 jours de grève avec beaucoup de violences policières, des blessés, des gens qui ont été éborgnés par les policiers, là, par des douilles en caoutchouc qui étaient lancées vers la foule, vers des jeunes qui chantaient, qui jouaient de la guitare dans les rues de manière hyper pacifique. Donc, ça, pour moi, ça a créé une faille, comme un bris de confiance envers les forces policières, le gouvernement. Mais il faut dire aussi que c'était un été caniculaire. Il faisait particulièrement chaud et je suis sûre que ça a contribué à ce climat anxiogène, tendu. Et on avait envie de fuir, on avait envie d'un autre monde.
Ben, c'est exactement ce que vous avez fait.
Oui, moi j'ai craqué.
Ouais, vous avez craqué. Et
oui.
Comment ça s'est passé alors, le craquage et la découverte du Kamouraska?
Ouais, ben j'ai craqué face à un mur de briques parce qu'on m'avait offert un bureau avec une grande fenêtre. C'était censé être synonyme du succès. Hein, j'avais 22, 23 ans, toute jeune. Puis on me promettait un très, très bon salaire, d'égaler presque le salaire de ma mère qui était fonctionnaire pour le gouvernement. Puis avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure et un arbre et de l'autre côté, un mur de briques. Et je me disais, c'est ça la vie.
Donc ça, c'est Montréal.
Et donc, je regardais le mortier, j'étudiais un peu la couleur et je me sentais prisonnière de cette cour intérieure, moi aussi. Et j'ai eu besoin d'un appel d'air, d'air frais.
De vous évader, quoi, de cette
prison. De m'évader. J'ai pensé à Kamouraska.
Pourquoi?
Le roman d'Anne Hébert que j'avais lu à l'école secondaire, qui avait semé quelque chose en moi, des images de froid, d'écrin de neige, de beauté étincelante à l'infini, de paix, un lieu pour écrire, un lieu pour se réinventer.
Donc, une vie qui bascule grâce à un livre. En fait, c'est exactement ça, votre histoire.
Hein.
Oui. Ouais. On va écouter la voix d'Anne Hébert. Hein. Avec justement, en 1977, sur Radio-Canada, cette autrice, poétesse et féministe québécoise qui parlait de ce roman Kamouraska.
C'est à l'époque du romantisme, et ça se passe au Canada, mais c'est aussi un romantisme qui se trouvait partout à ce moment-là, en Europe aussi. Le pays lui-même, le paysage, l'atmosphère, le peu d'habitants dans les villes, c'est des toutes petites villes, des petits villages, et séparés les uns des autres par des étendues immenses de forêts, de champs, de lieux déserts.
Voilà, et c'est là que vous avez envie de tenter l'aventure, alors, Gabrielle Filto-Shiba?
Oui.
Dans cet endroit désert, quasiment, dans ces tout petits villages?
Là où naissent les bélugas. Et avec cette architecture qui nous rappelle les maisons françaises, hein. Kamouraska, c'est un très vieux village qui était où logeaient les capitaines de bateaux qui connaissaient la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, qui était compliqué. Hein. On embarquait un capitaine dans plusieurs hameaux comme ça, et il était spécialiste chacun d'une section du fleuve Saint-Laurent pour éviter toutes ces échoueries.
Ouais. Et donc, vous avez trouvé votre cabane?
Oui, ben en fait, au début, je cherchais un appartement, mais il y avait déjà une crise du logement à l'époque.
Ouais.
Il y avait rien de disponible, il y avait pas de maison à louer. Il y avait presque pas de maison. Et donc, j'ai trouvé un campement de bûcherons à vendre qui était abandonné depuis les années 70 dans la forêt qui avait déjà été rasée à l'époque, mais qui avait repoussé de plus belle. Et je suis allée visiter, Puis c'était un prix ridicule, puis c'était d'une beauté absolument mythologique. Il y avait des traces d'animaux, mais qui se chevauchaient, et c'était à n'y rien comprendre. Des ratons laveurs, des orignons, des loups, des coyotes, des martres, des pécans, je sais pas, des castors. C'était... J'ai eu un fou rire, comme dans l'enfance, comme au bord de mon lac,
ouais.
À me dire, mais une autre vie est possible, je pourrais déménager dès demain.
Et il y avait cette rivière aussi qui était là?
La rivière Kamouraska, qu'on appelle aussi la rivière aux perles, qui est impétueuse, indomptable. J'avais peur de me baigner tellement que le courant était fort. Je voyais des truites sauter. Donc, il y avait une abondance de vie. Et je me disais, mais je pourrais le semer ici, mon petit jardin de rêve. Je pourrais habiter dans la cabane et cuisiner sur le même type de poêle à bois sur lequel ma grand-mère cuisinait à l'époque. Donc, c'était une image très romantique. Hein? Mm-hmm. C'était l'été aussi. Hein? Ouais. C'était avant les grands froids.
C'est ça.
France Inter. La Terre au carré.
Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie. Affronter seulement les faits essentiels de la vie, non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composantes les plus élémentaires. Et si jamais elle devait se montrer mesquine, eh bien alors, en tirer toute l'authentique mesquinerie et avertir le monde entier de cette mesquinerie.
Le philosophe Gilles Tibérien, en 2022 sur Arte, qui lisait un extrait de Walden, Henry David Thoreau, qui évidemment fait aussi écho à vos propres livres, Gabriel Filto-Shiba, et En cabané en particulier, puisque vous y racontez votre premier hiver dans le froid québécois, dans cette cabane que vous avez découverte. Est-ce que, comme Thoreau, vous avez passé un peu plus de 2 ans, hein, vous hein? Dans
oui,
cette
moi,
cabane,
je voulais être meilleure que lui.
Ah, ouais.
J'ai fait 3 ans, moi. Lui, ouais. Je crois que c'est deux ans, deux jours.
C'est ça. Mais avec des allers-retours à la ville, quand même. Hein.
Quand même.
C'est ce qu'il décrit, lui. Hein.
Oui, mais je pense que les ermites, il faut le faire. Hein. Il faut s'extraire du monde, prendre un certain recul, réfléchir, mais ensuite se faire violence, retourner et tenter de donner des armes intellectuelles à notre peuple, bien humblement. Mais je pense que l'observation de la nature, la faune, le calme, le silence portent conseil.
Oui. Comment réagissent vos amis, vos parents, lorsque vous leur dites que vous allez vous installer au Kamouraska dans cette cabane, alors qu'il fait moins de 30 degrés l'hiver?
Mais ils sont très inquiets. D'abord, ils n'ont aucune idée c'est où cette cabane. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseau cellulaire, il n'y avait aucune façon de me géolocaliser. Pour eux, c'était même un signe de peut-être une santé mentale fragile.
Ah oui?
Oui.
Et vous avez tenté de les rassurer?
Non.
Non.
Non, je suis juste partie. Et moi-même, je ne savais pas combien de temps je resterais dans cette cabane. Je le voyais comme un voyage, comme un stage, même en nature. Mais j'y suis restée 8 ans, en fait, dans cette forêt.
C'est ça. Il y a eu la cabane.
Oui.
Et puis ensuite, une maison un peu plus confortable.
Oui, à énergie solaire, mais quand même, qui était plus étanche, qui avait moins de souris.
Oui. En fait, vous avez été locataire des souris au départ. Hein?
Oui, puis j'avais l'impression que c'était moi l'intrus dans l'histoire.
Oui.
Et je les ai dessinés beaucoup, je les ai écoutés, puis même à l'écoute des sons que faisaient les souris, je pouvais savoir quel serait le temps pendant la nuit. Ça raconte à quel point je m'ennuyais.
Oui, mais c'est le sens de l'observation aussi. Vous aviez aiguisé.
Il n'y avait rien d'autre à écouter.
Ah, vous êtes sûr? Il n'y avait pas d'autres animaux à écouter?
Ah oui, il y avait des hurlements. Ouais. Oui, il y avait il y avait un grand-duc, il y avait des chouettes. J'ai appris à les distinguer. Il y avait des coyotes.
Ouais. Est-ce que la peur vous a parfois accompagné ou pas? Est-ce que le doute vous a parfois aussi accompagné ou pas?
J'étais terrassée au début. J'avais tellement peur d'aller dehors dès qu'il faisait noir, parce que bon, on grandit à Montréal, il n'y a pas de pénombre, il n'y a jamais de noirceur totale.
Mmh.
Mais dans la forêt du Kamouraska, quand il n'y a pas de lune, on ne voit même pas les doigts devant soi, la main. Là, donc oui, ça me prenait une lampe torche pour aller chercher le bois, et même je faisais toutes mes tâches très rapidement dans la journée, sachant que le soleil se coucherait tôt, vers 3-4 heures l'hiver. Donc, il fallait que tout mon ravitaillement soit fait pendant la clarté, comme on dit.
Mais on s'installe avec quel état d'esprit dans une cabane comme ça? On se dit, je vais vivre mon expérience, j'ai apporté mes livres, je vais les vivre dans la nature, me nourrir de ce que je trouve. Ou vous aviez quand même aussi une vie organisée avec un endroit pour aller gagner de l'argent, pour être sociabilisé, pour rester dans la civilisation? Comment ça se passe?
Au début, ça a été une coupure nette. J'avais envie de me réinventer. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais demeurer traductrice? Est-ce que je voulais écrire, peindre? Il me restait encore un peu d'économie. Donc, j'ai passé vraiment peut-être 6 ou 7 mois sans travailler. Mais j'ai appris à fendre le bois. J'ai appris à récolter différentes branches pour m'en faire des tisanes. J'ai dessiné toutes les traces d'animaux que je voyais pour tenter de les identifier, pour voir quelles étaient réellement les menaces autour de chez moi. Il y avait des pommes qui avait été laissé à l'abandon. J'ai appris à les tailler en lisant des livres. Puis j'ai remarqué qu'il y avait aussi des traces de griffes d'ours qui grimpaient dans ces pommiers-là pour aller chercher les dernières pommes tout en haut.
Vous en croisiez de temps en temps des ours?
Non, mais je voyais beaucoup de traces.
Oui.
Oui, j'ai appris à pêcher aussi. J'avais jamais pêché. Pour moi, c'était l'école de la vie. Et à ce titre-là, Henri David Thoreau a été un grand maître. C'était vraiment... Je lisais même ses textes à voix haute parce que j'avais une grande solitude. Puis j'avais peur de perdre la tête même parce que t'as personne à qui parler, à qui te confier. Mais j'avais les textes de Thoreau avec moi, entre autres.
Ouais. Est-ce que n'importe qui est capable de vivre ce que vous avez vécu, à votre avis?
Je pense que oui. Je pense que c'est pour ça aussi que je voulais l'écrire d'un point de vue féminin, parce que moi, j'avais lu seulement des récits d'ermites hommes ou de grands voyageurs qui avaient affronté le froid, puis j'associais ça à une forme de force physique masculine. Mais c'est faux, il faut juste développer d'autres techniques. Je pense que les femmes aussi, on peut fendre le bois, on peut pelleter. Notre centre de gravité n'est pas au même endroit, mais si moi j'y suis arrivée, pourquoi les femmes de mon époque ne pourraient pas faire pareil?
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, dans le contexte géopolitique global, que de plus en plus de personnes recherchent un mode de vie comme celui-là, en tout cas à essayer de vivre au plus près d'un monde sauvage, si tant est qu'on puisse parler de sauvage aujourd'hui réellement? Est-ce que vous avez le sentiment que votre récit touche de plus en plus de monde?
Oui, parce que mes lecteurs m'écrivent. Puis moi, je crois en cette révolution par les cabanes. Il faut retourner en nature, si c'est peut-être même juste pour un passage à l'âge adulte. Un peu comme le faisaient les Premières Nations avec les quêtes de vision. Les garçons partaient en forêt jusqu'à temps de rencontrer un animal. Et parfois, ils mangeaient rien pendant des jours et des jours.
Puis c'était des rites de passage.
C'est un rite de passage. Et je pense que pour moi, ça a vraiment été un rite de passage. Je l'ai fait un peu tard. J'étais dans la vingtaine, mais ça m'a tellement transformée, j'ai pas l'impression d'avoir quitté la cabane. Je suis encore encabanée. Je suis encore cette femme-là qui est émerveillée par la nature autour.
Est-ce que ça vous a transformé, bouleversé, ou est-ce que ça n'a fait au fond que consolider ce que vous ressentiez déjà très fort intérieurement et que vous êtes autorisée un jour?
Oui, ça l'a consolidé, en fait, une confiance que j'avais en moi, en mes forces, en me disant, ben oui, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. En fait, j'ai des talents, mais ça prend du travail. Il faut vouloir travailler, mettre le temps, l'énergie qu'il faut. Et toutes les peurs que j'ai sont irrationnelles. Ce sont des peurs qui m'ont été inculquées soit par les contes de fées, par le cinéma, donc la peur du noir, la peur des bêtes. Et maintenant, j'ai plus peur du tout. En fait, je peux me promener dans la nature en pleine noirceur, puis j'écoute les cris et je suis émerveillée. Je suis chez moi. J'ai un véritable sentiment d'être à la maison, dans la forêt.
Vous dites que tout le monde en est capable, au fond, de vivre cette expérience. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, pour certaines personnes, à romantiser un petit peu le fait d'un retour à la nature comme celui-là?
Oui, mais maintenant, il y a du réseau partout au Canada, donc ils peuvent appeler à l'aide.
S'il y a un pépin.
Oui, ils peuvent appeler un voisin. Puis bon, c'est aussi une façon, c'est une leçon d'humilité, hein, de réapprendre à compter que sur soi-même. Puis après, on réalise que non, on a besoin des autres. Moi, j'avais un voisin, par exemple, qui était venu en motoneige, puis il passait, puis moi, je pensais que c'était un prédateur sexuel, mais en fait, c'était un bon, gentil monsieur qui venait seulement voir s'il y avait encore de la fumée qui sortait de ma cabane pour savoir si j'étais en vie. Puis on s'est parlé à un certain moment, on s'est croisés dans un sentier. Puis il m'a dit, mais c'est parce que j'ai une fille du même âge que toi. Et ça m'inquiète de te voir ici toute seule. Puis il m'avait donné un steak d'orignal qu'il avait lui-même chassé, puis des pommes de terre, des carottes de son potager. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Et surtout la réalisation que... Moi, ma première pensée en le voyant ou en entendant sa motoneige, ça a été danger, menace, un homme qui me traque. Mais en fait, non, c'était un bon voisin qui voulait me venir en aide.
Et des voisins, d'autres voisins, vous avez noué des relations aussi avec votre entourage le plus proche, là, dans cet environnement très vaste, malgré tout?
Oui, ben mes premiers amis, ça a été des militants écologistes. Donc moi, j'avais reçu un tract par la poste d'une compagnie pétrolière qui disait qu'il allait construire un oléoduc pas très loin de ma cabane. Et ça, ça m'a piqué. C'est comme si on m'avait mordu. Puis je suis allée à la séance d'information dans le village. Puis bon, ben c'est un village de peut-être 500 âmes l'été quand il fait beau. Là, sinon on était très peu nombreux. Et là, j'ai vu la grogne. J'ai vu les jeunes qui étaient prêts à tout pour bloquer le projet. Et j'ai trouvé ça hyper excitant. Un peu comme le printemps érable à Montréal, là, j'avais droit à, en fait, des militants qui étaient, certains qui étaient formés par Greenpeace, qui étaient des anciens, on va dire, agents non violents, mais de sensibilisation du public, puis qui avaient toutes sortes de techniques hyper élaborées, de grimpes aux arbres, aux édifices. Et ils m'ont dit, mais toi, Gabriel, qu'est-ce que tu peux apporter à la lutte? Je dis, ben alors moi, je sais pas grimper, j'aime pas trop briser des branches non plus, mais j'ai la plume, je pourrais écrire. Alors, dans un premier temps, j'ai écrit des préambules de pétitions, j'ai écrit des articles dans les journaux locaux. Et là, ils m'ont dit, ben c'est pas assez. Il faut écrire des chansons, des livres pour enfants, des poèmes, un roman militant. Et donc, c'est ça.
C'est grâce à eux, au fond, que vous avez commencé à écrire?
Oui, ben j'écrivais déjà un journal intime.
Oui.
Et là, j'ai décidé de romancer mon journal intime et d'incorporer des personnages.
Et d'en faire un acte de résistance, alors.
Exactement.
Et de militantisme.
Oui, parce qu'après tout, hein, le papier, c'est la pulpe des arbres, hein, c'est du bois. Donc, moi, j'avais envie de rendre hommage à ces forêts qui sont encore debout et qui sont en péril.
Ouais. Et votre cabane, c'est devenu aussi un lieu de résistance pour accueillir des militants chez vous?
Ah oui, j'en ai accueilli des centaines au fil des ans. On organisait même des festivals comme ça où tout le monde venait camper, puis on faisait un immense feu, puis pendant une semaine, on réfléchissait au monde de demain. Comment faire de manière douce, bienveillante, ludique, artistique, non-violente, pour réveiller cet amour-là du vivant? Puis ce qu'on a compris, c'est que c'est tellement simple, il faut juste aller en nature. Puis la nature fait le reste. Le travail de séduction, de la grande séduction, se fait au contact de ces animaux-là qu'on a vus qu'au cinéma ou que dans les livres, mais ils nous émeuvent, puis leur rareté, puis leur beauté, leur grâce nous donne envie de les protéger.
Mais est-ce qu'aller en nature, ça suffit pour être victorieux, pour se dresser contre un projet d'oléoduc, par exemple, et une compagnie qui, évidemment, a une puissance que les militants esselés dans la forêt ne peuvent pas avoir?
C'est la base, mais il faut aussi avoir certaines aptitudes. C'est pour ça que la lutte, elle est vraiment complémentaire. Il faut aller étudier en droit, faut devenir journaliste. Il faut être des porte-parole. Il faut aussi être des bons parents. Il faut apprendre à nos enfants à prendre soin de leur corps, de pas se surmener. Faut revenir à un rythme beaucoup plus lent. Et c'est ça la décroissance. En fait, c'est dormir plus, lire beaucoup, faire l'amour, marcher. Je pense que si on passait plusieurs heures par jour avec ce programme-là...
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est
hein?
Un bon programme.
Puis déjà, on consomme moins. On a moins envie d'aller s'acheter des vêtements neufs parce qu'on est triste, on a une moins bonne estime de soi. Moi, je suis certaine qu'en se donnant beaucoup d'amour, bien, on va influencer plus largement notre cercle d'amis, notre famille. Et de toute façon, les révolutions partent toujours d'en bas.
Et vous avez gagné contre le Léoduc?
On a gagné.
C'est incroyable, non?
On a gagné. Puis c'est aussi pour ça que j'avais besoin de publier ce texte. En fait, cette trilogie qui commence par Encabané. Parce que j'avais envie d'immortaliser cette lutte qui, pour une fois, avait été fructueuse. On s'entend, c'est un combat de David contre Goliath. C'est du jamais vu. Mais la compagnie a reculé, voyant que les Québécois de toutes les générations, il y avait aussi les Premières Nations, il y avait les conseils municipaux des villages... Tout le monde s'est tenu et c'était de toute beauté.
Pour tous les Français qui vous entendent et les Françaises, c'est un message évidemment très important parce qu'on peut gagner et on a gagné aussi en France contre des gros projets. Mais là aussi, le Québec montre qu'il ne faut pas s'arrêter et que quand on se mobilise, on arrive à avoir des résultats extraordinaires, même face à des puissants.
Et je voulais dire aussi aux militants, on vous voit. Je voulais que les militants se voient dans la littérature sous un beau jour, sous un bel éclairage.
On va écouter un extrait d'un reportage, parce que la forêt québécoise, on en a aussi beaucoup entendu parler en 2023 avec ces feux absolument sidérants. Et on va écouter Alain Webster, qui est un universitaire de Sherbrooke. En août 2024, il faisait le bilan de ces feux de forêt.
Lorsque on regarde l'impact des feux de forêt exceptionnels en 2023, les émissions qui proviennent uniquement du secteur forestier sont beaucoup plus élevées que les émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle canadienne. Ça nous illustre encore, malheureusement, une fois de plus, la nécessité de sortir de l'industrie fossile, réduire les gaz à effet de serre le plus rapidement possible.
Parce que ralentir le réchauffement climatique réduira les risques de feux de forêt catastrophiques.
Gabriel Filtoshiba, vous savez que même nous en France, on a respiré des particules des incendies de vos forêts en Amérique du Nord. Et vous, vous l'avez vécu vraiment dans votre corps aussi. Hein?
Oui, moi j'ai dû fuir même la maison où j'habitais parce que j'avais les yeux qui brûlaient. Puis pour ma fille, je me suis éloignée le plus possible du brasier.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit cette expérience-là vraiment?
Une peur animale terrible. Moi, c'était la première fois que je le ressentais dans mon corps, là. Les yeux qui piquent, la nausée, même un étourdissement. Ma chienne qui adore courir, elle ne voulait plus aller dehors. Elle pleurait. C'est terrible.
Et c'est une menace qui reste, qui persiste?
Oui, parce qu'une fois qu'on a perdu la canopée, bien, le soleil plombe. Et alors à chaque été, on se dit, mais ça va brûler encore, parce qu'il reste des souches, il reste des branches au sol, et elles ont été blanchies par le soleil, elles ont été asséchées, donc c'est un tapis d'épines qui oui, ça va brûler encore.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous vivons à un étage très particulier de la montagne, qui n'est ni celui des villages, ni celui des fermes, presque celui des forêts, juste en lisière, entre ces deux mondes. Alors l'écriture, elle est pour moi quelque chose qui naît d'une impression très profonde et de sensation et d'une emprise, d'un magnétisme du réel sur moi. Donc, évidemment, je parle de ce qui m'entoure, les cerfs.
La voix de l'autrice Claudie Hutzinger, que vous connaissez, Gabriel Filtoshiba. C'est une autre montagne, c'est une autre forêt dont parle Claudie Hutzinger. Vous vous reconnaissez dans ces paroles-là?
C'est une sœur.
C'est vrai?
Mais oui, mais elle parle d'emprise, c'est tout à fait ça.
Et le magnétisme aussi?
Le magnétisme, vous, oui.
Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là?
Oui, tout à fait.
Quand on vit vraiment...
On sait qu'on y reviendra toujours.
Parce que vous en êtes partie de cette forêt?
Ben, j'ai dû quitter la forêt parce que j'ai eu une petite fille et donc je voulais qu'elle soit scolarisée, qu'elle ait des amis. Et donc je me suis rapprochée un peu de la civilisation, mais j'habite dans un marais protégé où il y a énormément d'oiseaux et d'amphibiens. Donc,
ça a été difficile pour vous de quitter après 8 ans quand même dans ce Kamouraska?
Oui, mais je pense que je vais y retourner un jour.
Ah oui? Quand votre petite fille sera beaucoup plus grande.
Oui.
Après 8 ans donc de vie en territoire sauvage, vous avez donc vendu cette cabane et votre bout de forêt. Et vous avez acheté aussi des terres un petit peu plus tard. Ça aussi, c'est un acte militant. Hein.
Oui.
C'est pas juste un placement foncier.
Ah non, moi, c'est pas pour posséder la terre. C'est vraiment pour bloquer des projets. Donc, j'avais été informée qu'il y avait un projet de développement d'un versant de montagne pour un centre de ski. Puis on était 5 voisins qui avons bloqué le projet pendant 2 ans.
Donc vous avez acheté un bout de montagne?
Oui.
Ouais.
Merci mes lecteurs, vous m'aidez à faire de grandes choses.
Ça c'est grâce aux royalties.
Mais oui, merci la France.
Parce que vous avez envie d'acheter d'autres terres encore?
Ah oui, oui, j'ai plein de jolis mauvais coups que j'ai envie de faire.
C'est vrai, c'est une bonne arme ça justement pour lutter?
Ah mais oui, je pense que... Plutôt que d'alimenter la bête, entre guillemets, plutôt que de placer ses sous à la bourse puis de faire de la spéculation sur les ressources, alors il faut sortir ces deniers-là et les placer en acheter des milieux humides, des forêts encore debout. Ça peut être à plusieurs, ça peut être une famille au complet qui a un petit bout et qui aménage un sentier pour les enfants, pour les écoles. Je pense qu'on peut faire de grandes choses à petite échelle.
Ouais, mais des Français et des Françaises le font d'ailleurs,
oui.
D'acheter comme ça des parcelles,
oui.
Pour bloquer certains projets. Exa, c'est votre nouveau roman, Gabriel Filtoshiba, qui vous vaut d'être donc en promotion en France pour le présenter. Est-ce que le fait de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique et venir faire de la promo de votre livre, ça vous pose problème?
Ah oui, ah oui. Parfois, il y a des pilotes qui disent un peu à la blague « merci de prendre le transport en commun ». Je pense que même eux ont une difficulté dans notre monde de se réconcilier avec leur métier. Mais pendant plusieurs années, j'accordais aucune entrevue. Je restais dans ma forêt, puis je voulais garder l'anonymat. Mais on m'a fait comprendre que mon message était important. et que s'ils pouvaient aider à mobiliser des milliers, des centaines de milliers de personnes, ben peut-être que mon empreinte carbone de mon vol n'était pas si grande que ça par rapport à l'impact que je pouvais avoir positivement sur le changement.
Vous dédiez ce nouveau roman aux sorcières qui nous éclairent. Qui sont ces sorcières?
Ah, ben alors toutes ces femmes brûlées dans l'histoire parce qu'elles étaient savantes, parce qu'elles étaient belles, rebelles, qu'elles connaissaient les plantes, qu'elles savaient accoucher naturellement, qu'elles savaient avorter naturellement. Des femmes indépendantes. Moi, ça m'inspire beaucoup, puis je trace un parallèle vraiment entre la violence faite au corps des femmes et la violence faite aux forêts. C'est le même système de prédation.
Et là, vous avez, au fond, noué les deux, c'est-à-dire les femmes et les forêts, parce que c'est aussi un roman écoféministe, on peut le présenter comme ça, avec cette idée d'une société dans laquelle on vit, finalement. Hein. C'est 2090 dans votre roman, mais c'est une société vraiment des dérives autoritaires que vous décrivez.
C'est demain matin.
C'est vraiment demain matin. C'est déjà presque aujourd'hui. Une société transformée en raison de la crise climatique, donc avec des femmes qui ont fait le choix de partir s'isoler dans la forêt. Ou qui ont l'autorisation de partir s'isoler dans la forêt?
Oui, une forme de réinsertion sociale par le travail.
Oui.
Des femmes un peu délinquantes, insolvables, sans statut, sans avenir, mais qui développent vraiment un besoin viscéral de faire le bien.
Et donc, elles ont l'autorisation, parce qu'on voit une cité, donc...
qui est étanche.
On n'a pas le droit de partir, qui est étanche au monde qui l'entoure. Et elles ont des autorisations pour quitter cette cité et se rendre pour quelques mois dans la forêt.
Oui, parce que j'ai imaginé un monde où, on le voit déjà, hein, j'ai que extrapolé des tendances qui sont déjà sur le terrain, mais où toutes les ressources sont rationnées, donc le pétrole nécessairement et les déplacements individuels sont limités au maximum. Alors, pour avoir le droit d'aller aussi loin, de consommer de l'essence pour se rendre sur ces terres-là, c'est plus du tourisme. C'est que pour le travail, il faut revégétaliser le Nord, et c'est dans un point de vue productiviste. Mais ces femmes-là décident, elles, de jeter, en fait, les arbres que le gouvernement leur fournit, qui sont génétiquement modifiés. Et elles vont plutôt récolter des semences dans les forêts anciennes et faire des pépinières et revégétaliser la forêt, mais de manière plus pérenne.
Ouais. Il y a ce message qu'aujourd'hui, précisément, la forêt devient un lieu où on peut construire autre chose. Et c'est vrai que beaucoup de gens, encore, dans ce contexte très particulier, géopolitique, hein, je le rappelle, mais cherchent en tout cas des endroits où aller, en s'apercevant que c'est compliqué, parce que tout est global aujourd'hui. Mais la forêt, ce serait quand même un terrain possible, selon vous.
Oui, puis il y a de la place hein, chez nous, il y a beaucoup de place.
Ouais.
Et on a peur d'y aller, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi j'avais envie aussi, en réponse à ces grands feux, de raconter comment la forêt, elle se guérit aussi par le feu. Il y a une forme de cautérisation de la plaie. Hein. Alors les forêts ont brûlé, il y a la suie, il y a la cendre, il y a la désolation, c'est noir, c'est irrespirable, mais le printemps suivant, ce sont les fleurs qui poussent, les arbustes, la vie renaît, comme par magie. Et encore mieux, si on peut accélérer ces rythmes-là, si on peut aller planter les espèces dans le bon ordre. Donc, c'est ça que je voulais raconter aussi. C'est comment est-ce qu'on peut être des gardiens bienveillants plutôt que des parasites.
Ouais. Et des gardiennes bienveillantes.
Oui, toujours, moi j'aime
en
toujours mieux
hein.
Au féminin pluriel.
C'est ça. Qui est Exa d'ailleurs, Gabrielle Filtoshiba?
Oui, Exa c'est un personnage dont on ne connaît pas l'origine. C'est pour ça que je lui ai donné un nom un peu énigmatique. Mais moi je l'imaginais comme une femme autochtone ou une migrante, qui est en tout cas une femme sans papier, puis qui est enceinte et qui n'a pas de permis de grossesse.
Parce que c'est une période où il faut un permis de grossesse.
Dans un monde où toutes les ressources sont rationnées, mais bien évidemment, les naissances pourraient être limitées aussi.
Et donc, elle fuit tous les contacts humains?
Oui. Elle est au plus près de la nature et de sa nature sauvage à elle. Et je voulais raconter aussi une naissance naturelle.
Ce qui a été votre cas ou pas?
Ce qui a été mon cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes qui étaient dans la pièce d'à côté, mais j'ai eu la chance de vivre une expérience où je me suis sentie tellement comme une guerrière. J'ai affronté la mort et j'ai réussi et j'ai eu une enfant en santé. Je me dis, mais ce récit-là est important pour les femmes de ma génération, de dire que ce rituel-là aussi peut vous donner confiance en vous et en votre force intérieure et en une capacité très grande de faire bouger des montagnes quand c'est question de donner la vie, protéger la vie.
C'est un livre qui est déjà sorti au Québec, hein, qui a eu quel accueil par rapport à vos précédents ouvrages? Parce qu'on le dit, il y a quand même une sorte de militantisme dans l'écriture, hein, c'est votre arme, c'est celle que vous utilisez pour résister aussi. Vos lectrices le ressentent aussi beaucoup?
Ah oui, oui, puis elles m'écrivent à tous les jours. Elles m'écrivent à tous les jours. Je reçois énormément de témoignages d'amour, des histoires aussi de différentes formes de résistance, de personnes qui partent vivre en forêt, qui démarrent des jardins bio, qui essaient de vivre autrement et qui ont besoin d'être inspirées. Je pense que c'est le travail de l'artiste aussi, parce que dans un monde où on craint une forme d'apocalypse, c'est à nous d'inventer, d'imaginer comment on pourrait sublimer l'horreur en ce moment.
Donc, tout comme le roman Kamouraska a bouleversé votre vie, vos propres livres aujourd'hui bouleversent aussi celles des autres.
Oui, je l'espère bien.
Et vous avez le grand sourire quand vous en parlez.
Oui, merci, c'est beau à entendre.
Il y a un poème, il y a même plusieurs poèmes dans un livre qui a été publié l'année dernière en France, s'appelle La forêt barbelée, dont vous êtes également l'autrice, Gabrielle Filto-Shiba. Et avant de vous quitter, j'avais envie de vous entendre aussi nous lire un de ces poèmes qui raconte les quatre saisons. Et là, il s'agit d'Appalaches.
Appalaches, peuple d'écorce. Je vis au pied de vos montagnes. Elles me parlent de communion avec le bois, de baumes, remèdes, de coulées. J'ai foi, foi en l'habitat. Debout dans l'eau, il y a une entité sous cap, immobile au pied du courant, telle une statue du passé, le drapeau d'un campement. Femme Appalache qui veille long-là, enfilant les perles véritables, invisibles. Je te sens, je t'entends.
Extrait de La forêt barbelée, parce que la poésie, vous en écrivez aussi, Gabrielle Filto-Shiba, et c'est aussi une arme de résistance, la poésie ?
Je suis de tous les combats.
C'est vrai, de tous les combats à la plume.
Oui, mais la plume est plus forte que l'épée.
Ouais.
Ah oui, oui.
Vous l'avez vérifié vous-même ?
Je vois l'engouement ici en France particulièrement, là, ça me fait chaud au cœur.
La Servante écarlate, évidemment, on y pense hein, quand on lit votre roman EXA, Margaret Atwood. Ça a été une grosse source d'inspiration aussi pour vous.
Immense.
Ouais, ça fait partie des livres qui ont bouleversé votre
hier,
parcours.
Hier, au lancement à Paris, j'avais ma robe rouge en son honneur. Et oui, parce que pendant le travail de réécriture de EXA, j'ai eu la grande chance de faire un cours de maître avec elle. Et ces romans d'anticipation, toujours un peu dystopiques, mais avec un fil rouge très féministe, qui m'ont donné envie de retravailler le texte, de le camper dans le futur proche et de me dire, bon, je vais donner un avertissement.
Oui.
Et c'est pas vraiment une dystopie, EXA. Moi, je le vois plutôt comme... on n'a pas de terme en français pour ça encore, mais dans la littérature anglophone, il y a le hope punk fiction. Oui. Donc, une fiction pleine d'espoir.
Oui. Et c'est ça qui prime, hein, finalement, dans votre histoire.
Oui, j'écrirais pas des histoires tristes. Ça serait un gaspillage d'arbres et de papier.
C'est que le contexte est sombre, mais il y a des horizons.
Oui, il y a de la lumière, il y a des failles, il y a des brèches.
Merci infiniment, Gabrielle Filto-Shiba, d'être venue aujourd'hui au micro de La Terre au Carré. Il y a plein de rencontres avec le public français. Il y a énormément de dates pour vous rencontrer. Et puis, je sais que vous allez revenir pour la promotion également d'EXA. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui dans
Merci
La Terre au Carré.
Vous.
Et bon retour au Québec.
moins 30 degrés.
Ouais, mais on retient le programme que vous nous avez proposé pour militer. Hein.
Oui, merci.
On va s'en inspirer. Merci beaucoup à vous. Et on termine l'émission comme tous les jours avec le répondeur et vos messages.
Bonjour, Dominique du 86. Merci pour votre courage, monsieur Cyril Dion. Vos propos de mercredi sur la situation américaine sont parfaitement justes. Le duo infernal est en marche. Demain, l'Europe leur servira de paillasson. Quant au personnel français qui leur a prêté allégeance, ils auraient pu rester là-bas. L'herbe y est sans doute plus verte. Enfin de l'herbe, tant qu'il y en a. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Bonjour, c'est Nazia de Tourcoing. Je représente le collectif Défense des Jardins à Tourcoing et j'aimerais alerter sur la situation de jardins familiaux qui sont menacés par une zone commerciale à Tourcoing, dans un secteur où il y a déjà d'autres zones commerciales et une autoroute qui passe juste à côté. Alors notre collectif, il se bat contre la destruction de ces jardins depuis 2016. Suite à notre mobilisation, la mairie de Tourcoing a annulé le permis en 2022, mais l'a redonné au promoteur en octobre dernier, et ce, 3 jours avant que le nouveau plan local d'urbanisme ne protège officiellement ces jardins. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook du collectif, collectif Défense des Jardins à Tourcoing. Un grand merci par avance. Au revoir.
Bonjour, c'est Nancy de Sainte-Hélène dans le Morbihan. Je voulais vous parler du prochain festival de bande dessinée La Vie en Bulle qui aura lieu les 8 et 9 février. C'est la 4e édition cette année. Comme les années passées, on reçoit une vingtaine d'auteurs et on va proposer 5 tables rondes autour des sujets tels que la mer, la forêt, être femme, la guerre 39-45 en Bretagne et la musique. Et on serait ravis de vous retrouver. Tout le programme sur www.laviambulle.com. À bientôt.
Bonjour, c'est Marie de Marseille. Voilà, j'ai un petit garçon qui est jeune et je me demande mais jusqu'où ils vont aller en fait pour polluer les sols, notre eau, tout ça pour gagner je ne sais combien de milliards, mais en fait je voulais juste rappeler que les milliards ne s'emportent pas dans la tombe. Je suis très en colère. Bonne journée.
Et merci beaucoup pour vos messages 01 56 40 45 45. Appelez-nous pendant le week-end, on diffusera bien sûr vos messages dès lundi sur votre répondeur. Merci à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission. Le dossier a été préparé par Anna Massardier et Corentin Rouchy et Élise Christophe nous accompagnaient à la technique.